BNP Paribas, 7e groupe bancaire au monde, l'un des deux seuls grands groupes bancaires européens de taille à rivaliser avec ses concurrentes chinoises et américaines, a son département microfinance. Celui-ci a été créé par Emmanuel de Lutzel, qui en est le responsable. Comment a-t-il initié la microfinance au sein de BNP Paribas, où il faisait jusqu'alors de la banque de financement et du cash management? Retour sur un certain parcours, Emmanuel de Lutzel.
Je suis effectivement responsable du département microfinance de BNP Paribas. J'ai eu la chance, en fait, de créer mon poste. Je dirais même plus loin, j'ai transformé mon hobby en job, puisque en 2005, je m'étais engagé en tant que bénévole de l'ADI, qui est une association française de microfinance. J'avais avec moi entraîné quelques collègues, donc on était une petite dizaine à s'être engagé comme bénévole. Et puis en 2005, c'était l'année du microcrédit. Et il y avait beaucoup d'articles dans la presse française et internationale sur le microcrédit comme modèle économique qui marche. Sur le fait que c'était pas quelque chose qui était uniquement à base de subventions, mais que c'était un véritable modèle économique. Je me suis dit, pour nous, chez BNP Paribas, on a une présence dans 80 territoires. On faisait à l'époque de la microfinance seulement en France, plus la banque privée qui distribuait à l'international, proposait à ses clients d'investir dans des fonds de microfinance, mais il n'y avait pas de projet destiné à financer les institutions de microfinance à partir de nos territoires. Donc cette idée m'est venue à la lecture d'un article tout simplement dans The Economist qui décrivait l'économie de la microfinance et l'engagement d'abord des banques de développement, ensuite des fonds spécialisés, ensuite des grandes banques internationales. Je me suis dit, pourquoi pas un vrai projet chez BNP Paribas.
Le 12 juin 2006, c'est une date dont Emmanuel de Lutzel se souvient.
L'idée était simple, séduisante. En fait, ça a été un parcours qui a duré 6 mois, entre janvier et juin 2006. J'ai individuellement convaincu une quarantaine de personnes dans les différents départements de la banque. Et chacun était enthousiaste par cette idée. Chacun m'ouvrait la porte d'un collègue, de son patron, qui ouvrait la porte lui-même de son propre patron, etc. Et tout le monde me disait, c'est une bonne idée, mais il faut que la direction générale décide. Je me suis rendu compte qu'en fait, une des difficultés, c'est que c'était un projet simple dans sa conception, mais compliqué dans son application, parce que ça demandait une forte impulsion, et puis c'était quand même une assez forte innovation, parce que jusqu'à ce moment-là, on connaissait la microfinance en France, on ne connaissait pas la microfinance internationale. Enfin, pour faire bref, un jour j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai demandé un rendez-vous au directeur général adjoint, qui, après 10 minutes, m'a dit « c'est une bonne idée et vous allez présenter le sujet au comité exécutif ». Et j'ai effectivement présenté le sujet au comité exécutif le 12-06-06, c'est une date dont je me souviendrai toujours. J'avais théoriquement 10 minutes pour présenter face au comité exécutif dans une banque. J'ai eu tellement de questions qu'en fait, après 25 minutes, Baudouin Pro a conclu en disant « bon, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire ce projet, maintenant où va-t-on le loger ?» Et un des paradoxes, c'est que je suis logé à la banque privée, donc je suis chez les très riches pour m'occuper des très pauvres.
La microfinance, c'est le champ de citoyenneté de la banque.
Alors, dit comme ça, ça semble très simple, mais en fait, c'est quand même quelque chose de très compliqué, parce que la microfinance, en théorie, ça veut dire 10 000 institutions dans le monde. Dans la pratique, des institutions qui soient assez grandes, assez capables de rembourser un prêt avec un modèle économique fiable, avec un impact social clair, démontré, présent sur les territoires où nous sommes présents, enfin, on est très attaché au lien avec les territoires. Enfin, au bout du compte, on se réduit à un univers d'investissement qui est peut-être de 200 institutions de microfinance. Et quand on croise avec les territoires, on arrive à une cinquantaine, une centaine. Donc aujourd'hui, on a 23 institutions de microfinance clientes dans une douzaine de pays, sans compter l'Europe. Là, je parle uniquement des pays en développement. En Europe, depuis très longtemps, depuis 18 ans, donc on travaille avec l'ADI en France, qui est la première institution de microfinance française. Et puis depuis 2011, 3 nouveautés en Europe. D'abord, avec l'ADI, nous avons créé en Belgique, au début de l'année dernière, une institution de microfinance qui s'appelle MicroStart. Nous avons participer au capital à hauteur de 25% de Permicro, qui est la première institution de microfinance italienne. Et nous avons également financé en dette, sur 4 ans, donc une institution de microfinance britannique qui s'appelle Fair Finance.
Une expérience en France et en Europe, une ouverture aux pays en voie de développement par une banque classique.
Nous ne sommes pas une banque coopérative ou mutualiste, mais on a une véritable politique de responsabilité sociale. Et la meilleure manière de faire de la responsabilité sociale, c'est de le faire dans son cœur de métier, qui est le métier de financement ou d'investissement. Ça n'est pas une politique de philanthropie ou de mécénat, hein. C'est une politique business. Nous sommes reconnus par l'ensemble des acteurs de la microfinance. C'est un microcosme, hein. On se connaît tous dans le monde entier, donc à la fois les grandes banques internationales, les institutions financières internationales, les grands fonds. On se parle tous entre nous. Et en fait, nous n'avons pas l'impression, parce que c'est une quinzaine de grandes banques internationales qui sont sérieusement impliquées dans la microfinance, nous n'avons pas l'impression de concurrence, on a l'impression qu'on est ensemble en train de construire un monde nouveau. Parce que les qualités professionnelles qu'on doit avoir pour sérieusement faire de la microfinance, hein, ce sont les mêmes qu'on soit chez un mutualiste ou dans une banque classique comme BNP Paribas.
Aux critères bancaires classiques s'ajoute celui de la performance sociale.
Un dossier de microfinance, c'est un dossier de 40 à 50 pages. Donc, on est très attentif dans notre analyse à deux critères. D'abord, les critères classiques d'analyse financière. Sont-ils en mesure de rembourser leurs dettes? On est une banque. Mais deuxième aspect, qui est le plus original et le plus important, c'est l'analyse de la performance sociale. Dans notre analyse de performance sociale, on a une quarantaine de critères. Les points principaux, outre le nombre de personnes qui vont être financées, enfin, est-ce qu'on finance véritablement des pauvres ou est-ce qu'on va financer des moyennes entreprises? Est-ce qu'on ne va pas faire du crédit à la consommation? On regarde évidemment s'il y a une proportion de femmes, parce que la microfinance est censée être plutôt orientée vers les femmes, même s'il peut y avoir des institutions qui sont très bien et qui financent essentiellement des hommes. Voilà, donc c'est une batterie de critères.
Mais alors, question, la microfinance ne prend-elle pas le risque de modéliser la misère au sens de s'en servir?
J'ai toujours dit que la microfinance n'est pas un outil magique qui permet de sortir de la pauvreté. Au moment du prix Nobel de la paix de Mohamed Yunus, il y a eu une période extraordinaire, c'était une reconnaissance. Mais il y a eu un peu une illusion qu'un petit coup de baguette magique de microfinance et la pauvreté du monde va disparaître. La microfinance, sans les infrastructures, sans l'accès à l'eau, sans l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, etc., ça ne permet pas d'éradiquer la pauvreté. Je crains malheureusement que pour le tout dernier milliard, des gens vraiment très très pauvres, la microfinance n'est pas adaptée.
L'économie sociale et solidaire, elle, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est sa prise en considération non plus comme une économie alternative, mais à part entière de l'économie.
On est aujourd'hui en plein dans un changement de paradigme. L'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose d'assez ancien. Ça date de 150 ans. C'était les socialistes utopiques du 19e siècle qui avaient lancé les premières expériences. Aujourd'hui, on est en plein dans des débats sur quelle est la proportion de subventions qui est nécessaire pour faire démarrer l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ça doit être purement capitalistique ou est-ce qu'on peut avoir une partie de subvention, etc. Ces débats sont extrêmement intéressants dans le microcosme des gens qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, mais je pense que le sujet majeur, c'est que les étudiants d'HEC, d'ESSEC ou des grandes écoles comprennent que l'économie sociale et solidaire est tout à fait compatible. Ça n'est pas une illusion, enfin, c'est une véritable réalité avec l'économie capitaliste. C'est une économie qui a un supplément d'âme. Et je pense que tout le monde est en recherche de sens et pas seulement de la maximisation du profit.
Exemple remarquable, le financement par BNP Paribas, donc, de microfinance en Tunisie.
On a tous été très touchés par le printemps arabe. Je pense plus particulièrement à l'institution de microfinance qui s'appelle ENDA, qui a été lancé il y a maintenant une vingtaine d'années par une personne très courageuse qui s'appelle Esma Ben Hamida. À l'époque, il y avait, donc dans l'environnement tunisien que l'on connaît, une banque qui s'appelait la Banque tunisienne de solidarité, qui Il disait qu'il distribuait du microcrédit, mais en fait, c'était des microcrédits avec des taux très élevés de défaut. Et c'était une sorte de clientélisme pour Ben Ali et son clan. Esma Ben Hamida a lancé l'institution ENDA donc, dans ce contexte avec beaucoup de courage. Elle a réussi à s'imposer face au gouvernement. Aujourd'hui, donc, c'est une institution qui rayonne non seulement en Tunisie, mais c'est très exemplaire dans l'ensemble de la Méditerranée et du monde arabe. Ils ont beaucoup contribué au développement de la Tunisie en montrant que un modèle qui n'était pas un modèle subventionné par rapport à la Banque tunisienne de solidarité était possible avec des gens qui pouvaient accéder à un développement, je dirais pas d'une grande richesse, mais à réussir à s'en sortir économiquement.
La microfinance chez BNP Paribas, 2006-2012, 6 mois pour convaincre les dirigeants, 6 ans d'expérience aujourd'hui. Tout a commencé pour Emmanuel de Lutzel comme bénévole de l'ADI, la première institution de microfinance en France, et dans le cadre du groupe éthique de Sciences Po dont il est ancien élève, son hobby, comme il l'appelle, représente pour ceux qui en bénéficient une réalité tangible, une chance de sortir de la misère.
On est un peu comme le funambule qui est entre deux abîmes. D'un côté, on a l'abîme du supercapitalisme avec la recherche du profit, et puis de l'autre, l'abîme de l'illusion sociale, de croire qu'on est dans un monde de bisounours et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Toute la difficulté est de trouver cet équilibre, d'avoir à la fois un petit degré de profit qui permet de préparer l'avenir, d'investir, et puis en même temps d'avoir un véritable impact social et pas d'instrumentaliser la microfinance comme étant un outil magique qui permet de sortir de la pauvreté.